Je voulais juste vous faire un petit rappel en fait des différents missionnaires de la fédération. Voilà, nous on est envoyés donc par la Fédération des Églises Baptistes en partenariat avec EBMI, la mission internationale baptiste. Et donc la fédération a envoyé 4 couples en mission. Donc vos dons sont partagés et voilà. Donc vous avez l'autre famille Minard. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'est le cousin de Nathan qui est à Madagascar avec sa famille. Donc vous voyez la première photo en haut avec leurs deux enfants. Donc ils sont envoyés pour de la théologie. Donc il est enseignant dans une école biblique. Voilà. En dessous vous avez la famille Célie qui est envoyée en Thaïlande, pareil pour de la théologie. Donc il fait des formations bibliques. En dessous, donc, vous avez nous. Voilà, vous en saurez plus après. Et encore en dessous, vous avez la famille Astorga qui est envoyée sur le Logos. Pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est un bateau d'évangélisation principalement. Ils font plein d'autres actions à côté, mais voilà, ils font principalement de l'évangélisation. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit rappel un peu de notre contexte à tous les deux. Donc Nathan, lui, il est né donc dans une famille chrétienne et en plus, voilà, comme il aime le dire d'habitude, il est tombé dedans quand il était petit. Ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ont été missionnaires et ben le Seigneur l'a appelé à continuer. Donc c'est dommage, la photo est pas très claire, mais vous le voyez en haut avec la famille. C'était leur photo, leur culte d'au revoir. Donc voilà, donc Nathan du coup est rentré en France après 14 ans au Cameroun avec ses parents qui étaient missionnaires du coup là-bas. Il a fait donc son choix de baptême un jour dans sa vie et après ça est venu le temps des études. Et donc il avait pas forcément envie d'être enfermé dans un bureau, donc il a cherché des études en plein air et il s'est retrouvé technicien agricole. Voilà. En ce qui me concerne, moi, mes parents sont pas missionnaires, pas du tout, mais ils sont chrétiens et ma mère a toujours eu très à cœur la mission. C'était vraiment son rêve, c'était de partir. Elle a dit « bon, mon rêve est à moitié réalisé » quand elle a su que je partais moi. Elle a dit « peut-être que du coup, je pourrais y aller un jour pour te rendre visite ». Voilà. Mais elle avait toujours très à cœur la mission, donc elle nous a mis un peu cette petite graine dans le cœur. À travers des ventes, elle était très créative. Ben, elle est très créative, ma mère. Donc du coup, elle fait plein de choses. Et après, avec les gens de l'église, ceux qui ont envie de servir mais qui peuvent pas partir. Donc voilà, tous, même les enfants. Elle a fait ça beaucoup avec les enfants. Et le but, c'était vraiment de faire des choses et de faire des ventes. Et tout l'argent revenait à des projets, à des dons, à des voilà, tout ça pour accompagner les missionnaires. Donc c'était ça. En ce qui me concerne, du coup, j'ai fait un peu mon cheminement personnel avec le Seigneur. Et un jour, j'ai pris cette décision de le suivre. Soit dit en passant, la meilleure décision que j'ai eu à prendre. Et après ça, du coup, est venu aussi mon temps des études à moi. Et en ce qui me concerne, j'ai fait des études de stylisme. Oh, le gros mot. Donc moi j'ai eu la chance qu'on me dise que le stylisme c'était pas fait pour les chrétiens. Et ben s'il y en a qui se posent des questions, sachez qu'il faut des chrétiens dans tous les métiers. Les jeunes, les moins jeunes, il en faut partout des chrétiens. Donc voilà, donc j'ai fait des études de stylisme et après ça est venue la question de j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, j'ai fait des études, j'ai vécu des choses formidables avec toi. Mais après mes stages, je me suis dit, t'as autre chose dans la tête. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai vraiment prié. J'ai mis dans les mains du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu as décidé de faire. Et ben, je me suis retrouvée au Cameroun. Faites attention à vos prières. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un peu le contexte de départ. Et maintenant, on va vous parler un peu du pays et de ce qu'on y fait.
Donc si vous avez vu... Voilà. Voilà, nous travaillons donc au Cameroun. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est en Afrique centrale. On le voit tout en haut sur la petite carte. Et donc, le Cameroun est appelé l'Afrique en miniature parce qu'on retrouve tous les climats d'Afrique. Dans le nord, très sec. Dans le sud, pluvieux. Dans le nord, c'est désertique. La partie sud, c'est la forêt équatoriale. Vous pouvez vous y perdre. Dans la partie ouest du pays, c'est très montagneux avec des montagnes qui montent jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Voilà, si vous voulez, dans les marécages, même au bord de mer. Oui, la diversité, vous voulez trouver les éléphants et les girafes, il y en a. Si vous voulez voir la plus belle antilope et la plus grande du monde, elle se trouve dans le nord, les Landes de Derby. Bon, pour vous dire que la végétation, la faune, la flore, tout ça, le relief est vraiment très diversifié. Comme là, c'est marqué, le Cameroun est presque aussi grand que la France métropole, mais avec plus de deux fois moins de population. Ça, c'est la carte pour les Français qui vivent au Cameroun. Donc, il faut savoir que dès qu'on change de pays, celui qui s'intéresse, en fait, sur le France Diplomatie, pour les Français, chaque pays du monde est cartographié pour donner des zones où on a le droit d'aller ou pas. Et donc, ça, c'est pour nous, puisqu'on est au Cameroun. Et donc, tout ce qui est en rouge est interdit. Et voilà, nous, on travaille dans cette ville Garoua. Vous avez vu la belle flèche? On est vraiment à l'endroit un peu limite. Alors, pourquoi ces couleurs? Dans la partie rouge du nord, c'est à cause de Boko Haram, ceux qui en ont entendu parler. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on en entend moins parler en France. On parle plus de l'Ukraine que de Boko Haram. Mais c'est toujours actif, c'est toujours réel. Voilà, avant qu'on voyage, j'avais encore entendu quelques villages rasés, quelques endroits, les maisons qui ont été... les maisons, les gens enlevés, ça se fait. Mais vraiment plus au nord, c'est pas toute la bande rouge, c'est vraiment plus au nord que ça se passe. Mais par mesure de sécurité, on nous donne des distances. Donc ils mettent plus de rouge pour éviter qu'on soit trop proche. Et c'est pour ça qu'il y a des bandes le long des frontières pour ne pas qu'on s'approche trop proche des frontières. Et la partie sud du pays, ça c'est la partie anglophone du Cameroun. Il faut savoir que le Cameroun, par son histoire coloniale, est anglophone et francophone. Donc on peut dire la grande partie est francophone et la partie rouge sur le côté gauche est anglophone. Et lors de leur unification, il y a des accords qui ont été faits et qui n'ont pas été respectés. Et aujourd'hui, alors ça fait déjà depuis 2016, des gens ont pris les armes. Certains pour dire on veut notre indépendance, d'autres ne sont pas contents. Et donc il y a des morts très régulièrement. Chaque semaine, il y a des morts dans ce secteur. Et c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que toute la population est d'accord. Mais voilà, l'armée est très présente dans ces différents secteurs. Et voilà, c'est la partie un peu compliquée. En orange, ils ont dit que c'est sauf raison impérative. Et comme moi, j'aime le dire, la mission est une raison impérative. Alors, il ne faut pas croire que nous, on a les balles qui passent entre nous. Garoua, bon, j'ai jamais eu de problème. Ça fait 11 ans, je n'ai pas eu de problème. Tout va bien à Garoua. On entend les choses parler. C'est à plus de 200 km. C'est par-ci, on entend parler. On connaît, on entend la population, ceux qui fuient de là et autres. Mais c'est vrai que nous, on est dans une grande ville, la troisième plus grande du pays. Et c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors nous, on est envoyé par la mission Baptiste pour travailler avec l'UEBC. L'UEBC, c'est l'Union des Églises Baptistes du Cameroun. Et donc la mission, elle soutient sur plusieurs facteurs. Il y a, je veux dire, les finances, il y a la prière et il y a l'envoi de missionnaires comme nous. Donc il faut savoir qu'au Cameroun, on n'est pas nombreux en tant que missionnaires envoyés de l'EBMI. Vous avez les deux tiers devant vous. Voilà, on a une collègue, Sarah, qui est allemande et elle travaille dans le milieu médical. Nous, on est plutôt dans le milieu scolaire, donc je vais vous parler un peu des différentes actions que la mission fait. Au niveau des vies de l'Église, il y a tout ce qui est évangélisation. Donc il y a un département évangélisation à l'UEBC et donc la mission aide financièrement pour l'implantation. Après, il y a tout ce qui est institut biblique. Il y en a deux, un dans le nord et un dans le sud du pays pour former les évangélistes, les pasteurs, et aussi pour donner des bourses à des personnes qui veulent aussi monter jusqu'au doctorat, puisqu'il y a une faculté de théologie au Cameroun aussi pour l'Afrique centrale. Après, tout ce qui est scolaire, c'est les écoles primaires, maternelles, collèges, lycées, centres de formation professionnelle, centres pour les jeunes filles. Donc tout ça, c'est des choses créées par l'Église. Il y a aussi les écoles de l'État, mais là, c'est vraiment pour les églises. Et après, il y a tout ce qui est le domaine médical. On va trouver des centres de santé dans les villages. On va trouver des centres ophtalmologiques qui est quand même connu nationalement. Les hôpitaux. Et voilà, ça, c'est vraiment un peu, vous voyez un peu rapidement ce qu'il y a. Juste pour donner aussi un chiffre, les églises UEBC au Cameroun comptent environ 600 sur le pays. Il y a environ 600 églises de UEBC. Si vous voulez une comparaison, la Fédération Baptiste en France, on est à 120. Donc, on va vous parler du centre où on travaille.
Donc, le centre dans lequel on travaille, donc, il a été créé maintenant il y a presque 30 ans. Donc, comme toutes les structures qu'on a citées tout à l'heure, c'est des structures qui sont chrétiennes. Donc, on a un pasteur sur place ou un évangéliste. Là, on a la chance, depuis 2 ans, on a un vrai pasteur qui est là, 24/24, on va dire, pour vraiment être présent pour les jeunes. Il y a une méditation qui est faite tous les lundis matins avec les jeunes, le mardi matin avec le personnel. Pendant la semaine, il y a des cours bibliques qui sont donnés. Là, la grande nouveauté de cette année, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment eu une grosse demande au niveau de l'apprentissage de la Bible, de vraiment en savoir plus sur la Bible. Et du coup, maintenant, chaque mercredi après-midi, on fait des études bibliques pour les jeunes et le personnel qui a envie d'en savoir plus. On est à peu près à une trentaine de jeunes qui se rendent à cette étude biblique chaque mercredi. C'est hallucinant, c'était vraiment un beau témoignage de pouvoir voir ça. Ces jeunes, il faut savoir, ce n'est pas tous des chrétiens. Ça a beau être une structure chrétienne, on reçoit tout le monde. On reçoit des non-chrétiens, on reçoit des chrétiens, on reçoit des musulmans, on reçoit vraiment toute personne qui a besoin de nous. C'est vraiment l'objectif de ce centre. Le but, ça va être des jeunes qui ont 16 ans et plus, et on va les former sur un métier. C'est des jeunes qui ont des grosses difficultés, qui ont des problèmes au niveau du scolaire, qui ont des problèmes au niveau financier, qui sont orphelins, qui ont de l'échec scolaire. Vraiment, ça va être des jeunes qui sont en grosses difficultés, qui ont besoin d'être soutenus et d'avoir un métier, d'avoir un avenir. Et nous, on va dire qu'on se donne l'excuse de leur donner, on va dire, un avenir à travers un métier pour leur parler de Dieu. Et donc, du coup, le centre technique est partagé en deux parties. Il va y avoir la partie formation, où on va leur demander de payer un quart de la scolarité, et la partie professionnelle qui va pallier, du coup, aux trois quarts qui va manquer, ainsi que les dons des églises qui sont également là. Donc au niveau de la formation, on va avoir de la mécanique automobile, donc tout ce qui va être garage, mécanique de fabrication, c'est avec tout ce qui va être conception de machines agricoles, de chaises, de tables, en tout cas tout ce qui est métallique. De l'industrie de l'habillement, c'est avec tout ce qui est la couture, l'hôtellerie, la restauration, l'électricité du bâtiment. Et cette année, la nouveauté, ça fait plusieurs années qu'on cherche à le mettre en place. Et merci Seigneur, on a réussi à le mettre en place cette année. On a 7 apprenants en menuiserie bois. Voilà, c'est une filière qui demande beaucoup de matériel, que ce soit au niveau de machines, que ce soit au niveau de matières premières. Et on n'avait pas les moyens de le faire. Et on a eu un don extérieur qui nous a permis d'ouvrir cette filière. Et c'est du coup une grande joie pour nous de vous le dire, qu'on avance encore, malgré tout ce qui arrive chaque jour. Cette année, on a 250 apprenants dans notre centre, voilà, qui ont fait leur rentrée cette année. Au niveau des différentes formations, on va avoir ce qui est long. Je pense qu'il y a 4 ans, vous avez présenté ça, comme quoi il y avait des formations de 2 ans qui étaient là. Et maintenant, la nouveauté depuis 4 ans, c'est un travail sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ça va être de répondre à toutes les demandes. Avant, on demandait de faire des formations de 2 ans, mais on demandait un minimum de CM2, 6e au niveau du niveau scolaire. Et là, maintenant, on a dit, c'est pas normal d'être un centre social et de pas réussir à former tout le monde. Et donc, du coup, on a fait de 100% pratique. On s'est adapté aux mamans, celles qui avaient besoin d'un planning aménagé pour pouvoir gérer les enfants à la maison et pouvoir faire la formation. Les jeunes filles ou les jeunes hommes qui devaient travailler à journée pour aider les familles, mais qui voulaient se former à côté. On s'est adapté aux horaires, on s'est adapté aux langues, on s'est adapté à la formation, s'ils avaient besoin de juste 6 mois dans un domaine bien précis. Voilà, on a vraiment cherché à s'adapter à toutes les possibilités qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on a créé le 100% pratique et qu'aujourd'hui, ça fonctionne du tonnerre. un autre projet qu'on a eu ces 2 dernières années, maintenant un peu plus, même que 2 ans, et qui, par la grâce de Dieu, a tellement bien fonctionné qu'il est renouvelé cette année. Avant, on formait les jeunes, et après, on essayait de les insérer, mais il n'y avait pas vraiment de suivi, parce que ça demande des fonds, ça demande beaucoup de choses, et du personnel en plus. Et on a eu des financements grâce à un partenariat pour nous aider à accompagner les jeunes, mais en plus à insérer les jeunes qui voulaient créer leur propre entreprise. Ça a eu vraiment un effet formidable. On a impliqué les parents dedans. Et je pense que vous le savez tous, quand un parent s'implique dans la scolarité de son jeune, il se passe des choses formidables. On a eu là un vrai témoignage qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu à le recueillir moi-même. La jeune fille qui est sur la photo, elle m'a expliqué un peu sa vie avant le centre. Elle me disait, à l'âge de 10 ans, j'ai perdu mes parents. Et je me suis retrouvée bonne chez mon oncle, où j'avais à peine un repas par jour. Et un jour, vers l'âge de 13 ans, il y a une dame de l'église qui l'a pris et qui l'a dit « Écoute, je te paye ta formation au centre technique et tu dois foncer, ma fille. » Et elle a fait 3 ans de formation sur place. Comme elle était un peu jeune, il a fallu faire un peu plus long. Et elle a fait donc 3 ans au centre technique. Et aujourd'hui, elle a fait partie de ce projet où elle a monté son propre atelier de couture que vous voyez sur la photo. Elle a dit, vous n'avez pas vous pouvez pas imaginer ce que le centre a fait pour moi. J'ai qu'un seul mot à vous dire et c'est tellement petit, c'est merci. Aujourd'hui, non seulement j'ai mon atelier et je vis grâce à ça, je forme d'autres jeunes filles qui étaient dans le même cas que moi à cette époque-là. Et en plus de ça, j'ai gagné le Seigneur. Et ça, c'est des témoignages, on pourrait vous en raconter plein, mais c'est vrai que le temps est un peu court. Là, vous avez un atelier de soudure en bas, où voilà, trois jeunes se sont mis ensemble pour créer leur atelier. Pareil, des témoignages formidables de leur vie d'avant et de leur vie maintenant. À droite, donc, vous avez un petit restaurant qui a été créé par un jeune. Voilà, il s'est mis à un bon endroit stratégique, à un péage, pour pouvoir nourrir les gens. Et il dit, c'est un métier qui me rend fière de moi. Et ça, c'est tellement formidable quand on entend ce genre de choses. Voilà. Et quand ils nous parlent du Seigneur qu'ils ont gagné à travers tout ça, c'est vraiment des beaux témoignages.
Alors, comme on vous a dit qu'il y a deux départements, je vous parle du deuxième département. Donc, le deuxième département, c'est les ateliers professionnels. Donc, on a un garage, comme vous pouvez voir, des véhicules en haut. Donc, on a un vrai garage qui répare des vraies voitures. Donc au centre, donc on répare des voitures de particuliers comme pour des entreprises style EDF, on a voilà, pas mal de véhicules qu'on dépanne et ce qui permet que ce garage, en plus de réparer les véhicules qui permettent de financer l'école, on forme aussi les jeunes comme on fait de la formation en mécanique auto, mais on a des jeunes, on les aperçoit un peu parce qu'on a juste trois mécaniciens, mais voilà, en vert à gauche là il y a trois jeunes et des fois on en a même une quinzaine parce que bah, voilà, ils peuvent apprendre sur place. On a aussi des partenariats aussi avec d'autres garages dans la ville, mais le but est vraiment à des moments s'ils ont des TP à faire, si voilà, s'ils veulent se former sur place, il y a des fois même des écoles extérieures qui demandent à envoyer leurs jeunes chez nous. Et donc là, voilà, vous pouvez voir le pont élévateur que j'ai installé il y a 2 ans. Il y a cette partie-là, et donc ça, c'est voilà, le garage. Et la deuxième partie dans les ateliers, c'est tout ce qui est fabrication. On a un atelier de fabrication, donc tout ce qui est métallique, de l'usinage à la soudure. Et donc là, ça, je vous ai mis juste des projets de cette année, c'est des nouveautés, parce qu'il faut savoir que dans l'atelier, on fait comme au garage, on forme aussi les jeunes. Ceux qui ont dit 100% pratique, bah, ils apprennent directement à souder. Et donc, on leur apprend à produire, puisque nous, on vend pour produire. Et donc, bah, ils apprennent avec nous, et après, quand ils sortent, ils deviennent nos concurrents. Donc, il faut réussir à faire de la nouveauté. Et c'est comme ça que cette année, on a fait une tente, on a fait un foyer, on a fait une table pliante. Ça, c'est seulement des petits produits. La tente permet aujourd'hui de la mettre en location. Il y a beaucoup d'événements. Et donc, ça nous fait une entrée d'argent. Donc voilà, on essaie de trouver par tous les moyens comment financer l'école pour éviter que les jeunes, on leur augmente leur coût de scolarité et ne peuvent plus se former. On cherche vraiment à donner l'accès au maximum. Donc, il faut trouver toutes les possibilités. Et donc, à la fabrication, on fait de tout, hein, des chaises, des tables. Vous voulez un coffre-fort, on va vous le faire. Vous voulez une charpente, on le fait. Un toboggan, on peut le faire. Des machines agricoles, on le fait. Voilà, on est vraiment très diversifié et on fait donc pas mal de choses. Et ce que j'aime bien dire, par exemple, dans le côté agricole, on va voir sur l'image d'après. Voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle une égreneuse à maïs. Et donc, ça, c'est une chose que ça fait partie du travail sur lequel j'ai été envoyé, c'est de concevoir des machines. Et donc celle-ci, c'est une égreneuse à maïs. Donc on met un épi de maïs à l'intérieur et on récupère les grains à la sortie, nettoyés. Et c'est un petit modèle qui peut se pousser à la main, attaché derrière un vélo ou une moto, se déplacer de quartier en quartier. Et donc, on forme les jeunes à les fabriquer. Mais après ça, la population qui n'a pas les moyens d'acheter une machine en Europe, une moissonneuse batteuse et autres, ben, ils ont cette possibilité-là. Et comme on l'a fabriquée nous-mêmes, on sait la réparer. Et j'aime bien ce côté de la fabrication où au final on répond à 3 choses. On finance le centre technique, on forme les jeunes et on aide la population à acquérir du matériel qui va les aider. Donc voilà une belle machine qu'on a vendue même jusqu'au Tchad. Ce n'est pas resté juste à Garoua, c'est parti quand même assez loin. Donc dans mes activités, comme vous avez pu comprendre, je fais pas mal de conception. Voilà, les autres produits avant, je les dessine, j'accompagne. Quand il y a des nouveaux clients qui arrivent, disent « est-ce que vous êtes capable de faire ?» On dit, bon, on va réfléchir et si on est capable, on lance la production. Cette année, on a eu pas mal de la grosse difficulté de délestage électrique. Donc, juste pour vous dire, juste avant qu'on voyage, ça fait déjà quand même 3 mois qu'on est en France, mais avant de voyager, on avait 5 coupures par semaine d'environ 8 heures. Voilà, imaginez. Alors, ça pouvait être de journée, comme de soirée, comme de nuit. Ça pouvait être même des fois 30 minutes par-ci, par-là. Je veux dire, le planning n'est pas toujours respecté, mais quand il était respecté, c'était 5 fois 8 heures. C'est pas entrecoupé, hein, c'est 8 heures. Alors imaginez, là-bas, le climat à Garoua, on monte, on est dans la moyenne dans les 40 degrés. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui sont habitués à la clim, pas de clim. pour ceux qui ont besoin d'électricité, comme les postes à souder. Et ça, c'était un peu embêtant au niveau de l'atelier et autres. Les gens ne pouvaient pas apprendre à souder, à utiliser certaines machines. Au garage, ça ne cause pas trop de problèmes, mais dans les autres ateliers, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les moyens actuellement de pouvoir avoir autre énergie que l'EDF de là-bas. Et dans le même exemple, voilà, à Garois, on a, donc, nous, on parlait du centre technique, il y a aussi une école maternelle, un collège, et il y a un hôpital où notre collègue Sarah travaille. Et eux, ils avaient le problème que quand il y avait coupure de courant, ils devaient renvoyer les malades. Parce qu'on ne peut pas faire les analyses, on ne peut pas faire de radio, on ne peut pas faire d'échographie, parce qu'ils avaient un tout petit groupe qui permettait de faire le minimum, mais dès que c'était important, bloc opératoire, ils étaient bloqués. Imagine, en plein bloc, le courant il s'en va. C'est vraiment embêtant. Et grâce aux dons reçus par la mission Baptiste, on a pu acheter ce gros groupe que vous pouvez voir là. Alors la photo paraît petite, mais c'est quand même un très gros groupe, 44 kVA. Et ce groupe-là, donc le rôle que j'ai eu, c'était de le réceptionner, de l'installer, de vérifier que tout est bon, de former les jeunes, le personnel médical à le démarrer, tout ça. Et après ça, eux, ils ont été tout contents parce qu'ils ont dit ce groupe permet d'alimenter tout l'hôpital. Vraiment sans exception, on l'a branché à l'arrivée, il alimente tout. Et ils disent, depuis qu'ils ont ça, les images sont jolies. Quand je vous dis les images, c'est les radios. Quand ils font les radios, ils trouvent que les images sont plus belles que quand ils sont branchés sur le réseau. Donc ils sont vraiment tout fiers de ce matériel de très bonne qualité en plus qu'on a pu installer cette année pour pallier à ça. Mais c'est vrai que là, je vous parle d'électricité, mais il faut savoir que quand il y a coupure d'électricité, c'est-à-dire qu'il y a coupure d'eau. Parce que le système de la ville fonctionne avec l'électricité, les forages et autres. Donc si le château d'eau ne se remplit pas, bah, on n'a plus d'eau aussi au robinet. Donc voilà des activités très variées que je fais. L'autre chose que je vous montrais un peu, voilà, je travaille aussi, ça c'est une église. Les églises maintenant me sollicitent pour leur proposer des plans de bâtiments. Donc là, je vais vous montrer après à quoi c'est actuellement. Et voilà, ils espèrent avoir un bâtiment en dur. Mais j'ai eu à travailler sur plusieurs bâtiments. Donc voilà, et au centre, j'ai travaillé aussi sur tout ce qui est administratif. Donc voilà, c'est vraiment, le missionnaire n'est pas juste focalisé sur une chose, mais sur beaucoup de choses.
En ce qui me concerne, du coup, mes activités ont beaucoup évolué. Pour ceux qui se souviennent, je suis partie, quand on est venu il y a 4 ans, j'étais partie donc avec mes études de stylisme dans la poche, et du coup, je faisais beaucoup de couture. Donc voilà, je faisais beaucoup de couture, j'ai fait beaucoup d'ateliers créatifs, et j'ai même été à remplacer des enseignantes, voilà, j'ai pour donner un coup de main quand il y a des congés maternité, tout ça. Donc vraiment, j'ai beaucoup travaillé pendant ma première année, pendant un an et demi, vraiment sur la couture principalement et sur aider à revoir les programmes, à donner des conseils, vraiment au niveau de la formation. Le Covid est arrivé, à notre grande surprise à tout le monde. Et on m'a demandé d'arrêter d'enseigner parce que l'école a fermé dans un premier temps. Et après, les gestes barrières n'étaient pas forcément respectés. Donc on m'a dit, pour le moment, c'est trop risqué. Vous n'avez pas ce qu'il faut à Garois si jamais vous attrapez ça. Donc, tu arrêtes d'enseigner. Donc, il a fallu faire autre chose. Et dans un premier temps, j'ai donné beaucoup de coups de main à l'administration. Donc, je suis devenue responsable au niveau de l'administration. J'ai beaucoup conseillé le directeur. J'ai aidé à embaucher du personnel. J'ai continué d'accompagner un peu la formation, mais ça a été vraiment à distance des élèves, à distance d'un peu tout le monde, on va dire. Un peu comme tout le monde, hein, je pense. Mais merci Seigneur. J'avais mis en place un atelier créatif. Le but, c'était vraiment que les jeunes apprennent à faire autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude. Et cet atelier, merci Seigneur, a continué avec une enseignante locale. Donc maintenant, ça fait déjà 4 ans que cet atelier existe et qu'il continue à travers des gens locaux. Donc ça... 4 ans. Oui, déjà 4 ans. Et voilà. Et donc, ça fonctionne et ça a perduré. Et ça, c'est une belle nouvelle. Donc, j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'administration. J'ai fait beaucoup de paperasse. J'ai créé un dossier administratif pour expliquer comment fonctionne le centre. Le but, c'est que voilà, depuis le Covid, les gens ont serré la ceinture partout, comme partout dans le monde. Et du coup, pour continuer à avoir des financements, fallait avoir un document qui explique comment fonctionne le centre. Et tout le monde avait un peu la tête dans tout ce qu'il devait faire, donc je me suis lancée là-dessus. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et la nouveauté de maintenant, il y a une bonne année, on va dire, que j'ai créé un nouvel atelier en cuisine. Voilà, une fois par mois, je suis devenue pâtissière. Voilà. Cet atelier n'était pas pour but de remplacer les cours existants. Ce n'était pas du tout l'objectif. C'était un cours en plus de tout ce qu'ils avaient. Et le but, c'était qu'ils apprennent beaucoup de choses. Dans un premier temps, c'est eux qui ont choisi la recette qu'ils avaient envie de réaliser. Alors ça les a surpris. J'ai dit, allez-y, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et en plus de ça, je vous annonce tout de suite, vous allez le ramener à la maison. Là, on m'a regardé, d'habitude, on leur fournit le matériel, mais après, ça reste dans l'école. Donc là, ils disaient, waouh, d'accord, ok, c'est quoi le piège? Et j'ai dit, ok, bon, maintenant, là, par exemple, l'exemple très concret, c'était, ils avaient envie de faire de la mousse au chocolat. Mais madame, c'est trop cher, la mousse au chocolat. On est à 2500 francs. C'est au-delà de nos moyens pour faire ça. J'ai dit, ok, on va faire la mousse au chocolat pour 200 francs. Les gens, ils m'ont regardé comme ça. J'ai dit, mais arrêtez de me regarder avec des yeux comme ça. On va le faire et vous allez voir. Et vous allez croire. Et après ça, donc du coup, chacun a amené un peu ses ingrédients avec ses 200 francs par personne. J'ai dit, même si vous n'avez pas les moyens de mettre 200 francs, vous vous mettez à 2, à 3, à 4, il n'y a pas de problème. Et on va diviser après pour que chacun ait sa part et puisse ramener à la maison. Donc, ils ont fait ça. Chacun a fait ses choses. On a fait. Ils ont vu, ils ont cru, parce qu'on l'a fait. On a fait leur mousse au chocolat. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je l'espérais vraiment, mais il fallait que ça se réalise maintenant. C'est la fierté dans les yeux de ces jeunes. C'est des jeunes qui, comme on disait tout à l'heure, ils ont des grosses difficultés. Ils ont vraiment perdu l'estime de soi. L'estime de soi, c'est très important. Et là, ils avaient un peu perdu tout ça. Et même le métier qu'ils faisaient, ils n'en avaient pas vraiment... Ils n'avaient pas forcément le goût à tout ça. Certains avaient le goût, mais c'est pas beaucoup. Il y en a qui étaient là vraiment un peu avec « j'espère que ça va donner quelque chose ». Et là, ils ont vu qu'ils étaient capables de réaliser quelque chose. Ils ont ramené leurs fruits de leur travail à la maison. Je pense qu'on se souvient tous du jour où on a ramené une bonne note à papa-maman. La fierté dans les yeux des parents, la fierté dans les yeux du cousin, de l'oncle, de la tante. Voilà. Et dans leur cas, voilà, toute la famille... Pour ceux qui y avaient, parce qu'on a toujours quelqu'un à la maison qui nous attend pour vérifier qu'on a fait les devoirs. Et là, ils ont non, d'habitude, ils font plein de choses, mais ils ramènent rien. Et là, ils ont ramené leurs fruits du travail. Et ça, ça leur a vraiment redonné goût à tout ce qu'ils faisaient. Ça leur a redonné de la fierté. Ça leur a donné de l'estime de soi. De toute façon, ça se voit, la photo parle d'elle-même. Les sourires de tous ces jeunes-là, ils n'étaient pas là au début. Hein. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Seigneur, il a vraiment agi à travers cet atelier beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Et ça a été quelque chose de vraiment dingue, en fait. Quelque chose qu'on espère de tout son cœur, mais que si le Seigneur n'est pas là, ça ne se réalise pas. Voilà. Ça, c'était un truc que j'ai eu à faire vraiment dans le concret. Autre chose, donc la photo juste à côté. Vous avez 6 enfants d'une école du dimanche qui ont posé pour vous saluer et vous remercier. En tout cas, remercier toutes les églises de France, parce que la France a fait un don de calendrier pour les enfants. D'habitude, on a toujours pour papa, maman, il n'y en a jamais pour les enfants. Et cette année, on a reçu des cartons et des cartons de calendrier pour les enfants. Et on est allé les distribuer dans plein d'églises. Et donc, ces 6 jeunes ont vraiment voulu remercier pour ce don et ont accepté de poser pour la photo. Maintenant, il faut savoir que quand il y a 50 adultes, il y a 50 enfants. S'il y a 150 adultes, il y a 150 enfants. Ça, c'est, voilà, on double à chaque fois les écoles du dimanche. Et donc, ces jeunes, voilà, c'était vraiment un merci. C'est pareil, des petites choses. Qu'on pensait c'est juste un calendrier, mais cet calendrier a refait penser les parents en train de dire mais nos enfants aussi sont importants, et ça a remis en place des études bibliques à la maison, des petits temps de méditation, des lectures, des trucs, mais en famille. Vraiment, on s'est mis à reconsidérer l'école du dimanche, reconsidérer la famille, et ça a eu vraiment un gros impact. Avant, on avait donné des calendriers pour les adultes qui avaient remis la méditation quotidienne dans l'église, remis la méditation peut-être entre le couple. Et là, le fait d'avoir touché les enfants, ça a dit, mais nos enfants aussi sont importants, et ça a retouché toute la famille. Et ça a été aussi un beau témoignage que tout ça nous a apporté. Il y a plein d'enfants maintenant qui attendent leur calendrier 2023. Donc, faut pas les décevoir. Nos enfants aussi sont là. Alors, vous les avez pas vus courir. Merci pour ceux qui les gardent. Sinon, ils seraient partout en train de courir. Ils sont là en mission avec nous. Et donc, on vous a mis quelques petites photos pour vous les montrer aussi. Donc là, vous avez en haut, vous avez Aena qui est en réunion avec nous. Voilà, des fois, je l'amène au travail quand c'est pas possible de faire autrement. Il y a Timaël qui fait du tam-tam à la fin de l'église. Voilà, petite musique et d'ambiance. Les jeunes, là, avec sa copine, ils sont sur la moto pour rentrer de l'église. les 50 degrés, faut les encaisser. Et quand il n'y a pas de courant ni d'eau, donc il y a toujours la petite bassine d'eau prête dehors pour pouvoir s'éclater. Ben ouais, parce que quand il fait très chaud, on peut atteindre les 50 degrés, 45, 50 à l'ombre. Hein. Moi, je vous parle à l'ombre. Hein. Au soleil, il faut éviter à ce moment-là. Donc voilà, donc ils ont toujours leur petite bassine d'eau pour pouvoir s'éclater aussi dehors, pour pallier à cette chaleur. La découverte des animaux, la Tima nous présente un petit lézard et leur terrain de jeu avec leurs amis. Là, on les voit pas très bien du coup, parce que noir sur noir, ça donne pas trop. Mais il y a leurs amis avec eux sur la terrasse en train de jouer. Et voilà, c'est leur petit quotidien. Tima, elle va à l'école. Aina, elle fait la nounou le matin et l'après-midi, je gère les enfants. Et voilà, pour passer un peu de temps avec eux et découvrir un peu tout ça.
On va vous parler un peu des églises à Garoua. Donc, comme je disais, Garoua est environ la troisième plus grande ville du pays, avec environ 600 à 1 million d'habitants, 600 000 à 1 million d'habitants, c'est à peu près les chiffres. Donc là, voilà, ça c'est une vue à Google Maps aérien. Donc vous voyez quand même, Garoua est quand même bien étendue. Et je vous ai mis des petits points rouges. Ce sont les églises baptistes à Garoua. On en a aussi en jaune. Donc voilà, on en a une dizaine de points sur la ville, juste pour Garoua. Je n'ai pas continué à faire tous les villages aux alentours, mais il y a quand même, comme je vous disais tout à l'heure, pas mal d'églises. Et là, dernièrement, depuis 2 ans, il y a eu des essais d'image. C'est pour ça que j'en ai mis en jaune, là-haut. Ce sont des églises, comme on peut le voir ici, qui sont de nouvelles implantations. C'est vrai qu'on peut voir qu'il n'y a rien autour. Mais en fait, ce sont des nouveaux quartiers. Les gens commencent à construire. Donc l'église s'est placée avant même que les gens construisent. Et voilà, là, on voit l'intérieur. Donc c'est très simple, en général, les implantations. Au début, c'est juste une toiture et avec des piquets. Là, ils avaient réussi à monter tout ça. Mais c'est vrai que malheureusement, ça, c'était la photo, on l'a fait en saison sèche. Mais quand la pluie est arrivée, il y a une grosse tempête qui est passée par là. Le bâtiment est parti en une nuit. Alors, je dis en une nuit, en quelques heures, même pas. Le vent est passé par là et moi, j'ai retrouvé juste les murs ici. Tout le reste était parti. Même la toiture, on ne trouvait pas de morceaux, c'était parti à des kilomètres. Donc, mais ils ne se sont pas relâchés, ils ont refait une toiture provisoire en plastique. Et le culte continue. Et donc là, dans des points d'essaimage comme ça, ils sont à peu près une vingtaine qui font le culte chaque dimanche. Alors, pour vous montrer d'autres tailles d'église, voilà, là, c'est encore un point d'essaimage, là, avec les bancs en terre. Ici, c'est une grande église. Ils sont environ 150 adultes qui font culte, là. Donc, un bâtiment tout en dur. Je vous ai dit que je fais pas mal de plans. Cette église m'a demandé de faire les plans pour le presbytère parce qu'ils ont réussi à faire un beau bâtiment, pratiquement aussi grand qu'ici. Et ils ont dit, c'est bien, on a un joli bâtiment, il y a du carrelage et tout, mais le pasteur, il vit seulement dans 2 pièces avec sa famille. Et il faut qu'on fasse quelque chose de bien pour eux. Et donc, juste avant de voyager, ils avaient commencé les fondations pour le presbytère, qui vont réussir à faire sur 2 niveaux, ce qui est pas mal pour la zone. Voilà une autre église, ça c'est une très grande église. Alors désolé, je n'ai pas la photo finie. On ne pense pas toujours qu'on a la tête dans le guidon à prendre les photos pour la France. Mais ce bâtiment est fini. Et voilà, c'est un bâtiment qui peut contenir plus de 1000 personnes, avec balcon et tout, un très gros bâtiment. Et pour vous dire un peu la technique qu'ils utilisent là-bas, tout à l'heure je vous ai dit, j'ai le plan, voilà. Voilà une autre église avec de la paille et de la tôle. Et c'est eux qui m'ont dit, on veut aussi un plan. Et c'est comme ça que la technique là-bas, c'est qu'on construit autour du bâtiment existant. Et c'est ce qu'eux aussi, ils ont fait. Et ici, en fait, on ne voit pas sur l'image, mais ici, il y a encore le bâtiment, il est dedans. Et c'est quand ils ont posé le toit qu'ils l'ont enlevé et ils ont continué à faire culte. Ils n'ont pas laissé le bâtiment pour laisser, c'est qu'ils faisaient culte à l'intérieur. En France, on ne pourrait pas faire ça. Mais voilà, ça c'est vraiment, ils n'ont pas de place ailleurs. Et donc c'est ce qu'ils vont faire ici, c'est qu'ils vont monter les murs. Et dès qu'ils vont poser le toit, on va enlever le bâtiment à l'intérieur et on va continuer à faire culte. Et on va faire les travaux comme ça. Donc là, ça ce sont des églises sur Garoua, une cinquantaine de personnes ici. Ici, ils doivent être aujourd'hui à peu près à 600 personnes pour faire le culte. Donc voilà, il y a des grandes églises, il y a du travail quand même. Et l'évangélisation, tout se fait et c'est vraiment... incroyable en tout cas de voir le développement. Maintenant, voilà, comme nous on fait avec les calendriers, on essaye avec différentes autres choses qu'ils ont. Ils ont des besoins autres, mais c'est vrai qu'au niveau de l'évangélisation, ça pousse comme des champignons. Donc voilà, ça c'est pour... Voilà. Je voulais vous partager quand même quelques versets qui nous touchent à nous et un peu qui nous ont stimulés. Voilà pourquoi on fait tout ça. Et donc je vais commencer dans Romains 12, verset 6. Nous avons des dons différents que nous devons utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Et donc, voilà, comme vous avez suivi, voilà, une styliste, un technicien agricole, et on est parti au loin donner nos dons, les dons que, voilà, que Dieu nous a donnés. Et chacun a des dons dans différents domaines. Voilà, on n'est pas appelé à dire que c'est seulement le don de pasteur qui doit se mettre sur le ici devant. Il y a tout pour que Dieu, pour la croissance, pour tout. Le dimanche dernier, on a eu une prédication qui disait que voilà, bah, c'est ce qu'on reprend les paroles, le corps de Christ. Il y a les mains, les pieds, les jambes et autres. Il n'y a pas seulement la main ne pourrait pas marcher tout seul. Le pied ne ferait rien sans la main, et le cœur et la tête et tout ça. Donc on a besoin d'être vraiment, avoir des dons différents pour pouvoir faire un seul corps. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 5, il est dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Voilà, le pied ne fait pas le travail de la main, et la main ne fait pas le travail du pied. Et donc voilà, on a vraiment diverses façons, que ce soit dans notre église ou au loin, que ce soit juste en faisant le ménage. Bah, si personne faisait le ménage, bah, ce serait compliqué de venir se sentir à l'aise là. C'est un don important. On le fait pour Dieu, on le fait pour notre prochain. Et dans Matthieu 25, verset 40, il est dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'est le truc qui me stimule dans le travail, même si ce n'est pas toujours facile. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Et je le fais pour mon prochain. Et voilà. Je suis pas un grand orateur, mais voilà, avec Dieu m'a donné la technicité et j'essaye de l'apporter, que ce soit en France, partout où je passe, de partager mes dons pour lui. Et j'aime bien le dernier verset que je vais vous lire, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Voilà, le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il a bien dit qu'il nous donnerait le Saint-Esprit. Et il dit, vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem. Et là, si on suit ce qu'il dit, il commence à Jérusalem, là où ils étaient. Il n'a pas tout de suite dit aller jusqu'au bout du monde. Il a commencé à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. Des fois, on a l'impression que Dieu nous appelle, dit hop, c'est loin. Non, là, dans le verset, c'est bien dit. Il vous appelle à travailler où vous habitez, où, dans votre ville, là où vous êtes. Et il y en a certains seront appelés dans la ville d'à côté, la région d'après, le pays après, et jusqu'au bout du monde. Et nous-mêmes, on n'est pas partis au bout du monde, hein, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc voilà, chacun est appelé à servir à différents lieux et au service de Dieu. Et vraiment, voilà, nous, c'est ça qui nous motive, de par nos dons, d'être des lumières, de rayonner là où on est, et d'espérer que voilà, ce qu'on fait, ce qu'on arrive à dire, notre comportement puisse toucher les gens et les transformer.
Voilà, donc on va terminer donc avec ces sujets de prière. Et avant de commencer, je voudrais, voilà, je vous mets l'adresse du blog. Alors le blog, moi je l'ai toujours pris au second degré, en train de me dire c'est pas grave si les gens n'y vont pas. Alors peut-être que je vais en frustrer plus d'un, mais c'est grave si vous n'y allez pas. Parce que cette année, ça a été une année compliquée pour nous, très compliquée. Quand on est retourné au Cameroun en janvier, on a été très malade. Vraiment très très malade, les uns après les autres, une fois les enfants, une fois nous, une fois, voilà, ça a été très compliqué. Timaël nous a fait des maladies qu'on n'a pas compris ce qui se passait, pendant 3 semaines sous antibiotiques. Aina nous a fait des infections pulmonaires, voilà, dès qu'elle attrapait un micro-rhume, ça finissait dans les poumons et avec la crainte à chaque fois de finir sous respirateur. Voilà, donc on a été vraiment très malade et dans un élan de désespoir, franchement, j'ai pris le blog et j'ai écrit dessus sujet de prière urgent. Et j'ai envoyé. Et tous ceux qui s'inscrivent sur notre blog vont recevoir immédiatement ce qu'on écrit. Donc, si vous avez un mail ou n'importe quoi, ou si vous avez un voisin ou quelqu'un à l'église qui a ça, on essaye chaque semaine de donner des nouvelles. Mais quand c'est pas possible, en tout cas, si on a un besoin, si on veut mettre des nouvelles, si on a un sujet de prière urgent, que ce soit pour nous personnellement ou pour d'autres, parce que c'est déjà arrivé que je dise que voilà, j'ai une amie qui est très malade, on a besoin de prier pour son enfant, pour elle, pour son... On l'écrit dessus. Donc, voilà, c'est vraiment... Et vous pouvez juste vous inscrire dessus et vous allez recevoir automatiquement. Donc, vous n'êtes même pas obligé de penser à aller voir régulièrement et tout ça. Et franchement, nous, ça nous a fait un bien fou parce que même vous, des fois, quand vous recevez ça, vous pouvez nous répondre et nous envoyer un mail d'encouragement, un « je prie pour vous », un n'importe quoi. Et ça fait un bien fou de se sentir parce que sans vous, on ne peut pas partir. Sans vos prières, on est trop faible, en fait, pour pouvoir partir. C'est vraiment vos prières qui nous portent chaque jour et qui font qu'on puisse faire tout ce travail. Donc, c'est vraiment très important, vraiment, de... Je sais que votre Église prie déjà beaucoup pour nous, mais voilà, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est vraiment ça. Après, donc, vraiment, au niveau des sujets de prière plus concrets, au niveau du CTG, mais aussi de tout ce qu'on vous a présenté, on a vraiment cette vision d'être un phare. D'être un phare pour notre ville. Toutes nos structures, tous les événements qu'on vous a parlé, les gens, quand ils voient ces structures, ils disent « vous avez quelque chose de différent ». Et on veut que ça continue. Il y a des structures, malheureusement, à cause du Covid, qui ont failli fermer. Merci Seigneur, ce n'est pas le cas. Mais qui ont vraiment eu des grosses difficultés financières qui fait qu'ils ont failli fermer. Et nous, on s'est battus pour qu'elles restent ouvertes parce que, justement, on est des phares, on est des lumières au milieu de notre ville parce qu'on a quelque chose de plus que les autres. On a le Seigneur avec nous. Et ça, il faut que ça reste. Donc, c'est vraiment un sujet de prière que le CTG, les autres, tout ce qui est porté par le Seigneur brille de mille feux au milieu de nos villes pour qu'on continue à rendre témoignage au milieu de tous les mondes. Au niveau plus personnel, donc pour ceux qui sont au courant de la situation d'Aena, son opération du 20 septembre s'est très bien passée. Merci Seigneur, elle s'est très bien remise. De toute façon, vous allez pouvoir la voir, elle court partout, elle mange très bien. Nos invités, chez qui on a été invités, on peut voir le témoigner, elle mange du tonnerre. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas suivi, Aena est née avec une malformation qui, pendant un temps, nous a vraiment posé la question de est-ce qu'on pourrait retourner ou pas en mission. Et merci Seigneur, on peut continuer notre mission. Vraiment, il a tout fait pour qu'on puisse y retourner. Et donc, on y est encore. Et de temps en temps, du coup, on revient pour le suivi médical d'Aena. Et voilà, ben, c'est une petite fille souriante. C'est notre petit rayon de soleil à la maison qui nous éclaire tous les jours et qui va très bien, du coup, par la grâce de Dieu. On a été très éprouvés en tant que parents, mais Aena va très, très bien. Donc au niveau de la vie de famille en mission, voilà, c'est un sujet de prière parce que comme je vous disais, c'est pas tout le temps facile. Voilà, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du quotidien. Voilà, les coupures de courant nous touchent autant que tout le monde. Les coupures d'eau, tout ça, c'est pas tout le temps facile de vouloir faire quelque chose et de se retrouver face à la réalité et de pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu de dire « Ah, j'ai prévu de faire mes lessives aujourd'hui. » Et d'un coup, le courant, il part. Et vous savez que demain, ce n'est pas possible. Après-demain, ce n'est pas possible. Et là, vous dites « Oups, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que voilà, c'est des détails comme ça qui disent « Bon, bah, allez, c'est parti. On prend le savon et on fait quelques lessives à la main. Parce que sinon, on n'a pas de linge pour demain. » Voilà. Donc, des choses comme ça qui... Voilà, la vie de famille en mission, ce n'est pas toujours facile. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Mais vraiment, c'est un sujet de prière. Et un dernier, voilà, j'ai écrit notre avenir parce qu'on recommence pour 2 ans. Voilà, on a re-signé. On part à la fin du mois pour repartir pour un an et demi, 2 ans. Voilà, donc on repart pour 2 ans, là, pour continuer notre mission. Mais dans 2 ans, on aura un suivi peut-être médical pour Aena un peu plus poussé. Nous, on a besoin aussi de se reposer un peu. Nathan, ça fait déjà 11 ans qu'il est en mission. En ce qui me concerne, ça fait déjà 5 ans et bientôt après, ça fera 7 ans. Donc voilà, donc on a besoin aussi de se reposer un petit peu. Et donc, mais on a toujours en prière de faire ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que moi, comme j'aime à le dire, quand on fait ce que le Seigneur il veut pour nous, il sait ce qui est bon pour nous. Donc si on lui dit oui, on vit des choses extraordinaires. Et c'est notre quotidien. C'est quand on lui dit oui à ce qu'il veut pour nous, on vit des choses de folie. Et moi, je vous encourage à dire oui au Seigneur, parce que grâce à lui, vous vivrez des choses de ouf. Peut-être même qui vont vous dépasser, mais qui seront tellement bonnes pour nous et pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Donc voilà, donc c'est un sujet de prière, notre avenir, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, pour la suite, pour dans 2 ans, pour même l'année prochaine, voilà. Ce qu'il veut, nous on veut lui dire oui, donc c'est un sujet de prière qu'on vous met également à cœur pour qu'il nous donne la sagesse, la paix et la joie dans tout ce qu'on entreprendre. Voilà, merci beaucoup.